Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série très importante concernant le salut. Nous aurons trois thèmes assez courts, mais qui doivent pouvoir atteindre même les cœurs les plus endurcis. Premièrement, le Saint-Esprit a trouvé l'adolescent en fuite. Deuxièmement, la paroissienne la plus difficile à vivre. Et le troisième thème, il avait apporté sa chemise de nuit dans une valise. Donc notre premier thème, c'est le Saint-Esprit qui a trouvé l'adolescent en fuite. Dans un petit village de la côte atlantique de l'Amérique, vivait une famille pieuse, donc très croyante, et cela au sein de laquelle le Fils de Dieu et sa sainte parole était honorée. Le père prononçait une prière de reconnaissance au début des repas. La mère priait avec les enfants quand ils partaient pour l'école, et le soir, avant de se retirer, le père lisait les saintes écritures et recommandait les siens à Dieu. Or, un des fils, pourtant, il éprouvait des ressentiments à l'égard de la religion, comme il appelait cela. Il n'aimait pas du tout tout ce qui était religieux. Il était embarrassé devant ses amis quand ils arrivaient chez lui et que l'on priait avec le repas, plutôt avant le repas. Il était donc très agacé par les requêtes constantes de son père et de sa mère, demandant la protection divine sur lui et intercédait pour son salut. Il préférait de beaucoup une vie d'abandon, insouciant à l'appel du monde et de ses compagnons de plaisir. Il s'appelait Paul. Mais il était tout à fait différent de saint Paul, serviteur de Dieu, qui aimait le saint nom de son Seigneur. Donc, jour après jour, Paul faisait des plans et des projets pour échapper d'une manière ou d'une autre à l'ambiance chrétienne de son foyer. Il ne voulait pas chagriner le cœur de sa mère, ni causer un scandale dans le petit village où il vivait. Mais finalement, il décida qu'il disparaîtrait tranquillement, sans laisser d'adresse, et qu'il s'en irait dans quelque ville lointaine où personne ne le connaîtrait et où il ne serait plus empoisonné, pensait-il, par les prières des chrétiens et les suppliques de ses bien-aimés. C'est ce qu'il a fait, et par une nuit obscure, après avoir fait un arrangement avec un étranger qui partait vers l'ouest et qui le prit comme passager, eh bien, il a réuni en secret quelques effets et il est disparu vers l'inconnu. Le Saint-Esprit a donc fait en sorte que son Nouveau Testament se trouvait dans la poche revolver d'un pantalon supplémentaire qu'il avait pris avec lui. Paul n'était pas un paresseux, pas du tout. Il avait appris un très bon métier en travaillant le stock, quelque chose qui était très, très prisé et donc reconnu en ce temps-là. Et il décida de se rendre là, oui, là où se trouvait une fabrique spécialisée en la matière. Il avait entendu dire qu'il en existait deux à Kansas City, et c'est là qu'il s'en alla pour chercher du travail. Son parfait apprentissage et son excellente habileté lui permirent très vite d'obtenir une place de responsabilité dans une fabrique de stockage. Naturellement, la consternation fut très grande au lendemain matin de son départ. Oui, car dans ce petit foyer de l'Est, quand on découvrit que Paul n'était plus là, qu'il avait pris des vêtements avec lui dans l'intention évidente de ne pas revenir à la maison. La mère et le père réunirent la famille pour prier ensemble. De ferventes pétitions sont donc montées vers Dieu en faveur du fugitif. Ils dirent au Seigneur que le Saint-Esprit savait où le garçon se trouvait, et ils lui demandèrent que son cœur et ses pas le ramènent bientôt à la maison. Ils savaient que leur garçon était parti à cause de leur activité chrétienne. Ils supposèrent qu'il rechercherait la compagnie et l'amitié des impies, et que sa vie et son âme serait donc en danger de se perdre. À peu près un mois s'est écoulé sans une lettre qui aurait pu apaiser le cœur angoissé de la mère éplorée et qui aurait par exemple pu calmer l'esprit du père qui priait sans cesse pour son fils. Or un jour, un ami de Paul mentionna incidemment à son père qu'il avait reçu une carte postale portant un timbre marqué par le tampon de Kansas City. Cela du moins était un indice appréciable, et une enquête a été entreprise pour obtenir les noms et adresses des fabriques de stock dans l'Ouest et les noms de deux d'entre elles à Kansas City ont été donnés. Le père a écrit immédiatement aux deux entreprises leur demandant si elles avaient engagé leur fils Paul. Les deux administrations répondirent et l'une d'entre elles par l'affirmative, déclarant en effet avoir engagé un jeune homme du nom indiqué. La démarche suivante consistait à trouver des points de contact dans la ville de Kansas. Un évangéliste présidait des réunions dans l'église que fréquentaient les parents du jeune homme. En parlant avec lui de leur chagrin, ils mentionnèrent le fait que le garçon se trouvait à Kansas City et qu'il était ouvrier dans l'une des fabriques de stock de la localité. Ils lui demandèrent s'il connaissait la ville et éventuellement une personne qui pourrait s'intéresser à leur fils prodigue. Il répondit qu'il connaissait un médecin qui était un évangéliste et qui serait certainement heureux de rechercher leur fils. Il donna aux parents son nom et son adresse et il eut bientôt une lettre de leur part avec tous les détails utiles. Après avoir lu la lettre de ce père et de cette maman dont le cœur était brisé, il se mit à genoux et il lut la lettre à l'Esprit Saint de Dieu, sachant qu'il pouvait tout donner et apporter au Seigneur, qu'il n'y avait aucun problème à cela, car il était profondément croyant. Et donc ensuite, il lui a écrit une lettre pour lui demander s'il accepterait de venir chez lui, et cela le vendredi suivant, pour prendre un repas avec lui en tant que son invité. Il mentionnait le fait qu'était éloigné des siens, son cœur désirait sans doute la compagnie de quelques jeunes gens et il aurait une telle occasion chez lui. Et à partir de maintenant, nous allons laisser parler l'évangéliste lui-même. Alors, il se trouva que ce vendredi soir, les jeunes de notre église avaient organisé une rencontre amicale au cours de laquelle ils chanteraient des cantiques et des refrains évangéliques, ils organiseraient des jeux bibliques et écouteraient un message de la Sainte Parole de Dieu. Dans ma lettre, je lui donnais mon numéro de téléphone et lui demandais de me faire savoir s'il acceptait mon invitation. La lettre fut envoyée lundi. Aucune réponse ne me parvint jusqu'au jeudi soir. Vers 19h30, je répondis à un coup de sonnette à la porte de la maison et je me trouvai devant un grand jeune homme de 20 ans. Je le saluai et lui demandai en quoi je pouvais lui être utile. Il répondit « Eh bien, je suis le frère Paul. » « Vous avez bien dit que vous êtes le frère Paul, lui demandai-je. »« Oui, répondit-il. Mais depuis quand êtes-vous devenu le frère Paul ?» lui dis-je très sérieusement. « Entrez donc et racontez-moi tout cela. » Nous nous installâmes dans la salle de séjour, tandis que mon cœur louait Dieu pour une réponse aussi rapide à nos prières. Il me raconta l'histoire de son départ de la maison, les difficultés rencontrées le long du chemin et le combat qui se livrait dans son cœur à cause de la décision qu'il avait prise de se détourner de Dieu et de ses parents chrétiens. Il avait donc loué tout simplement une chambre à proximité du lieu où il travaillait et était devenu l'ami d'un autre garçon, athée évidemment, qui se trouvait dans le même atelier que lui. Il s'était laissé entraîner par ce mauvais garçon et avait commis des choses qui, même pour lui, étaient tout à fait indignes. Une bataille se livrait dans son âme parce qu'il savait pertinemment qu'un jour il récolterait ce qu'il était en train de semer. L'histoire qu'il me raconta concernant la manière extraordinaire dont son cœur avait été touché par Dieu est à peu près celle-ci. Mardi dernier, mon camarade et moi, nous avons travaillé ensemble sur un échafaudage, fixant des plaques de stuc, lorsque soudain mon ami perdit l'équilibre et tomba sur le sol en se heurtant durement la tête. Il fut tué sur le coup. Je l'ai vu tomber et j'ai entendu le bruit de sa chute et j'ai su qu'il était mort. Je descendis rapidement vers lui et je découvris qu'effectivement, il s'était tué. Dieu parla immédiatement à mon âme avec une terrible conviction. Pourquoi lui plutôt que moi? Pourquoi Dieu m'avait-il épargné alors que j'étais un pécheur rebelle? Pourquoi Dieu m'avait-il conservé la vie au lieu de me punir? Alors toutes ces questions se pressèrent dans mon esprit avec une telle force que je me mis à trembler et ne pus poursuivre mon travail. Je savais qu'au loin, à la maison, ma mère et mon père priaient pour moi. Mon instructeur à l'école du dimanche priait également pour moi et mon pasteur priait également pour moi. Était-il possible que ces prières m'ont préservé de manière que la vie me soit conservée et qu'une nouvelle occasion d'être sauvé me soit donnée? Quand on a eu enlevé le corps, je suis retourné dans ma chambre, très misérable, très malheureux et convaincu de mes erreurs. Je trouvais ainsi votre lettre qui était arrivée par le courrier du matin. Alors que je la lisais, je fus absolument convaincu que Dieu vous avait placé sur mon chemin pour que vous me conduisiez au Sauveur. Je me demandais naturellement comment il se faisait que vous me connaissiez et qui vous avait dit où je me trouvais. Comment saviez-vous que je n'avais pas d'amis et que j'avais vraiment besoin de la compagnie de quelques jeunes? La conviction du péril face à l'éternité m'a fait oublier un instant votre invitation et je cherchais dans mes affaires pour voir si je trouverais un nouveau testament. Or ce soir-là, une lettre expresse de ma mère est arrivée, ayant été adressée à la fabrique pour laquelle je travaille. Dans cette lettre, ma mère me priait de ne pas chercher à échapper à Dieu, mais bien au contraire, de recevoir le Seigneur Jésus et de lui permettre de satisfaire les aspirations de mon cœur. Elle avait glissé dans l'enveloppe un évangile de Saint Jean et avait souligné quelques versets pour que je les lise. L'un de ces versets était dans Saint Jean, au chapitre 3, verset 36. Là, il est dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils Jésus-Christ ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Ce verset servit donc à approfondir ma conviction et remua beaucoup mon âme. Je relus la lettre de ma mère ainsi que le verset cité et je m'agenouillai devant mon lit en disant à Jésus-Christ que je voulais croire en lui et l'accepter. Je ne voulais pas mourir et aller en enfer. J'étais misérable dans mes péchés et de ma rébellion, et je savais au plus profond de moi-même que lui seul pouvait me donner la paix. Je le reçus avec joie et je télégraphiai immédiatement à ma mère que ses prières avaient été exaucées et que son fils égaré avait été retrouvé. Quel moment de joie nous avons passé dans mon bureau! J'avais demandé au Seigneur qu'il me permette de gagner pour lui ce garçon, mais il l'a fait merveilleusement par le moyen de sa mère. J'avais pensé au passage biblique dont je me servais pour parler avec lui, mais le Saint-Esprit avait d'autres plans. Il répondit à ma prière quant au salut du jeune homme et il me permit également de le rencontrer, mais il me concéda pas l'honneur de le conduire au Sauveur comme je l'avais espéré. Ce fut la prière de sa mère et de son père et l'évangile de Saint Jean et le verset cité par sa mère qui ont été utilisés par l'Esprit de grâce pour accomplir l'œuvre dans le cœur du jeune homme. J'écrivis donc aux parents pour leur raconter toute l'histoire qui touchait à la vie de leur fils. Peu après, il fut reçu dans l'Église et envoyé chez lui dans la joie. Nous avons ici comme une répétition, me semble-t-il, de l'histoire de l'eunuque éthiopien. Rappelez-vous, l'Esprit Saint sait où se trouve le cœur troublé. Il sait aussi où sont les âmes qui prient. Il contrôle la chaîne des événements. Il envoie le message qui convient, oui, qui convient au moment opportun. Donc, chers amis, apprenons de plus en plus à dépendre de sa merveilleuse aptitude à atteindre les cœurs et les vies de ceux qui nous sont chers. Notre deuxième thème, c'est la paroissienne la plus difficile à vivre. Chers amis, ceci est le témoignage d'un pasteur itinérant. Le dimanche soir était arrivé et les réunions qui avaient été très largement annoncées allaient être inaugurées par un service d'ouverture. L'église était bondée, même l'estrade, les escaliers et les couloirs étaient occupés. Le chœur au complet était à sa place. Le conducteur du chant était sur l'estrade et l'accompagnatrice, elle était au piano. Ayant pris place aux côtés du pasteur sur la plateforme, mon attention a été attirée par la dame qui était assise devant le piano et par son apparence très distinguée et par les signes de sa culture et de sa richesse. Le premier hymne fut annoncé, et tandis qu'elle l'accompagnait, je remarquais que la pianiste ne manquait pas de talent, bien au contraire. Et je demandai au pasteur, « Qui est cette dame qui tient le piano ?»« Oh là là, c'est la plus difficile de l'église, » me dit-il. « Elle me cause plus de difficultés que n'importe quelle autre personne et j'aurais souhaité qu'elle n'assiste pas à cette rencontre. Certes, je n'attendais pas une telle réponse au sujet de quelqu'un qui paraissait si capable et si attrayant. Continuant ma question, je demandais « Qu'est-ce qui ne va pas ? De quelle manière vous dérange-t-elle ? » Il répondit hâtivement. Occupant une position en vue dans la ville, elle exerce une très grande influence sur les gens de cette église. Je me rendis donc compte immédiatement qu'une telle femme pouvait faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal par son influence sur les paroissiens. Et il continua, « Oui, cette femme dirige une des classes de l'école de dimanche, une classe de jeunes maîtresses de maison. Elle quitte l'église après avoir enseigné, mais elle n'assiste jamais au culte. Par contre, elle va au théâtre, elle joue aux cartes, elle va au cinéma, et tout autant, elle est plus intéressée, on peut bien le dire, par les choses mondaines que par les choses spirituelles, et peut-être bien davantage encore. Ainsi, elle est un très mauvais exemple pour tous les membres de ce troupeau. Je n'arrive absolument à rien avec elle. Elle n'écoute aucun conseil. La situation me parut donc extrêmement triste et je suggérai au pasteur d'aller dans son bureau tandis que se poursuivait le service de chant préliminaire et cela de façon que nous puissions prier ensemble pour cette personne en particulier. Le pasteur me répondit « Non, 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 je n'ai pas envie de le faire. J'ai prié pour elle des mois et des années et j'ai plaidé et j'ai discuté, j'ai prêché contre la mondanité en sa présence, mais aucune de ces choses ne l'a touchée ou changée en quoi que ce soit. Je souhaiterais qu'elle ne soit pas du tout présente. » Oh là là, est-il possible, ai-je dit, qu'il y ait ici, dans cet auditoire, une âme perdue qui ne devrait pas y être, quelqu'un si endurci que même le Christ vivant ne puisse atteindre son cœur. Je vais aller prier pour qu'elle soit la première à être sauvée ce soir. » Le bureau du pasteur était tout proche. Aussi, je me suis éclipsé tout seul pour plaider auprès du Seigneur pour qu'il fasse de la femme la plus difficile de l'Église la meilleure de toutes. Et quand j'ai repris ma place sur l'estrade, le moment de commencer mon ministère était arrivé. J'observais que la pianiste avait été obligée de rester sur son tabouret parce qu'il n'y avait aucune autre place possible ou disponible. Toutes les places étaient occupées. Pendant le premier quart d'heure du message, elle ne lui donna que très peu ou pas du tout d'attention. Elle avait assisté à beaucoup trop de réunions, elle avait entendu beaucoup trop de prédications et elle était arrivée à la conclusion que rien de tout cela n'avait quelques intérêts pour elle. Le message de ce soir-là était un exposé de l'Évangile. Je cherchais à raconter l'histoire de l'Évangile de Saint Jean concernant la valeur qu'a le Seigneur Jésus-Christ pour l'âme indigente. Le récit éveilla tout doucement son imagination et pendant tout le reste du service, elle écouta attentivement. Je mis l'accent en particulier sur Saint Jean chapitre 3, verset 36, où il est dit que celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu est sur lui. Je mentionnais le fait qu'il est possible de croire beaucoup de choses concernant le Fils Jésus-Christ sans croire au Christ lui-même, qu'il est possible de croire aux faits sans les accepter ou se les approprier pour soi-même. Or, à la fin du service, notre ami quitta l'église sans dire un seul mot, ni à son pasteur, ni à l'évangéliste. Nous nous demandions si elle reviendrait le lundi soir. Elle avait prié pourtant l'un des anciens de lui réserver un siège au milieu du premier rang. Or, quand le service de chant a été terminé, elle est allée s'asseoir immédiatement au centre et carrément devant moi, et elle écouta attentivement le message concernant la justification. Le texte était pris dans Romains, chapitre 5, verset 1, où il est dit « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » À ce texte fut ajouté le 9e verset, où il est dit que « à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous enfin sauvés par lui de la colère de Dieu ?» Eh bien, ce message, évidemment, approfondissait l'œuvre du soir précédent. Et elle écouta attentivement tout le culte et elle serra la main au prédicateur. Mais elle ne lui donna pas l'occasion d'un seul entretien. Mais elle revint le mardi, l'âme angoissée, et elle demanda à nouveau qu'on lui réserve un siège comme le soir précédent. Le message était basé sur Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, où il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne puisse se glorifier. Son profond intérêt se manifestait enfin, et elle ne perdit pas un seul mot du message. Le mercredi soir arriva, et à ce moment-là, le pasteur avait déjà constaté le grand changement qui s'était opéré dans l'attitude de la pianiste et il observa la manière dont elle suivait de très près le message. Aussi fut-il heureux de se joindre à moi pour demander à Dieu que ce soit l'heure de sa décision. Notre auditrice ne quitta pas le piano ce soir-là, car quelqu'un avait occupé le siège qu'elle s'était réservé et il n'y avait aucune autre chaise disponible. Après que j'avais parlé quelques instants, la tête entre les mains, elle me regarda et on peut dire elle regarda surtout personne d'autre autour d'elle. Et le Seigneur agissait dans son cœur, tandis que je parlais. Et plusieurs personnes autour de moi prièrent avec ferveur. À la fin du service, je m'approchai rapidement d'elle, car elle était encore assise là, devant le piano, et je découvris qu'elle pleurait. Je lui demandai gentiment, « Puis-je vous aider ?»« Oui, dit-elle, je suis une hypocrite et une terrible pécheresse, et je voudrais que Dieu me donne la paix pour mon âme. » Ce n'était pas possible, au milieu de la foule, d'avoir un entretien personnel et tranquille avec elle. Aussi j'ai écrit sur une carte les trois références suivantes. Saint Jean, chapitre 3, verset 36, Saint Jean, chapitre 1, verset 12, et la première épître de Saint Jean, au chapitre 5, verset 12. Et je lui ai tendu la carte en lui disant, « S'il vous plaît, quand vous serez chez vous, lisez ces passages dans l'ordre indiqué. » Le premier verset parle du don de Dieu. Le deuxième vous invite à accepter ce don. Tandis que le troisième vous dira la bénédiction qui résulte de l'acceptation du don. Je vous en prie, lisez ces paroles à genoux, seul, absolument seul, devant Dieu. Et demain soir, vous me direz si vous avez accepté Jésus-Christ et s'il est devenu votre Seigneur et votre Sauveur. Nous avons beaucoup prié ce soir-là pour que la sainte parole de Dieu puisse agir efficacement dans son cœur. Et quand elle est revenue le jeudi soir et qu'elle a pris place devant le piano, nous avons pu observer le merveilleux changement qui s'était produit. Son visage radieux, son pas, on peut dire, a été beaucoup plus léger. Un changement total s'était donc présenté dans tout son être. Son visage était radieux, sa joie en jouant du piano, tout racontait vraiment son histoire en des termes qui n'étaient pas incertains, tant s'en fallait. Alors à la fin du service, elle est venue en hâte vers nous pour nous raconter que dans la chambre haute de son foyer, elle avait apporté son cœur et son âme à Christ, et qu'elle avait trouvé la paix qui surpasse toute intelligence. Chers auditeurs et auditrices, êtes-vous actifs dans l'Église? Et pourtant, peut-être, un obstacle. Êtes-vous un chrétien, une chrétienne de nom, pseudo-chrétien, mais sans Christ? Êtes-vous occupé dans le service du roi, mais sans être l'enfant du roi? Approchez-vous du Sauveur maintenant, et il vous sauvera, croyez-moi, parfaitement. Notre troisième thème, c'est « Il avait apporté sa chemise de nuit dans une valise ». Dans une charmante petite localité, un groupe de chrétiens avait loué un théâtre abandonné pour y tenir une mission d'évangélisation et ils ont invité un évangéliste pour prêcher. Des annonces avaient été faites dans les villages avoisinants et toute une compagnie pieuse, donc qui était zélée, des personnes convaincues, intéressées, se sont rassemblées pour écouter l'Évangile. Le responsable principal se trouvait près de l'estrade, me parlant des arrangements qui avaient été faits, et cela avant que ne commence la réunion. Nous avons un homme, ici, dans ce village, d'une cinquantaine d'années, qui arrivait par l'un des couloirs, et il avait une valise qu'il portait à la main. S'approchant de nous, il déposa sa valise sur le sol, et il demanda « Puis-je voir l'évangéliste ?» Mon ami lui a répondu « Mais voici le prédicateur qui va diriger les réunions du soir. Vous pouvez lui parler maintenant si vous le désirez. L'évangéliste sera immédiatement là et lui a serré la main la main du visiteur et lui a demandé en quoi je pouvais lui être utile. Il répondit « Eh bien, je suis venu pour être sauvé. J'ai tergiversé pendant de très nombreuses années et maintenant j'ai 50 ans. C'est, je crois, le moment ou jamais de me décider. J'ai roulé une cinquantaine vraiment de kilomètres pour arriver jusqu'ici à cette réunion et pour vous écouter. Et j'espère que vous allez tout m'expliquer à fond. » L'évangéliste lui demanda « Pourquoi avez-vous apporté cette valise ?»« Eh bien, j'ai apporté ma chemise de nuit parce que j'ai l'intention de rester ici jusqu'à ce que je sois sauvé. Je ne rentrerai pas chez moi avant de savoir vraiment être sûr et certain que je suis devenu un véritable chrétien. Ce n'est pas souvent que l'on voit un tel intérêt se manifester de cette manière-là. Et une telle détermination est une telle intention du cœur. Eh bien, croyez-moi, ce sera toujours un instant béni, béni par le Seigneur. Et ça, c'est absolument certain. L'évangéliste avait confiance que le Saint-Esprit révélerait le Seigneur Jésus-Christ à cet homme à cause de sa recherche et de sa venue. Le Seigneur a dit que ceux qui me cherchent me trouveront. Et nous nous sommes assis au premier rang et nous lui avons demandé quelle est la partie des Saintes Écritures que vous connaissez le mieux. Je ne connais que Jean, chapitre 3, verset 16, répondit-il. Laissons parler maintenant l'évangéliste. Eh bien, c'est un merveilleux verset, cela. Je me demande si vous croyez ce qu'il dit. Oh, bien sûr que je le crois. Je crois chaque mot de ce verset. Voulez-vous me le citer ? « Oh oui, avec plaisir, répondit-il, et il s'écria, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, puisque vous me dites que vous croyez à ce que dit ce verset, « Voulez-vous, mon cher ami, vous agenouiller ici avec moi et remercier Dieu pour plusieurs choses que je vais vous énumérer ?»« Oui, dit-il, je suis prêt à faire n'importe quoi pourvu que je sois sauvé. Et c'est pour cela que je suis venu et c'est mon profond désir. » Très bien. Alors mettons-nous à genoux et je vais vous demander de remercier Dieu d'abord pour vous avoir donné à vous son Fils unique. Voulez-vous faire cela ? Oh oui, dit-il. Ensuite, je vous demanderai de dire à Dieu que vous acceptez ce don et que vous recevez son Fils pour qu'il soit votre Seigneur et Sauveur. Voulez-vous faire cela en le lui disant ? Certainement, je le veux, répondit-il. La troisième chose consiste à remercier Dieu de vous avoir donné la vie éternelle, maintenant, là où vous êtes, parce que vous avez accepté son Fils pour votre propre compte. Voulez-vous le remercier pour cela aussi ? Oui, oui, je serai heureux de le faire, répondit-il. Je voudrais aussi vous demander de remercier le Seigneur de ce que vous ne périrez jamais et vous ne serez jamais perdu, vous n'irez jamais en enfer parce que vous croyez en Jésus-Christ, le roi de gloire, qui a effacé vos péchés sur la croix du calvaire. Oui, oui, je vais le lui dire à l'instant même. Ça fut donc sa réponse. Et maintenant, mon ami, voulez-vous diriger votre cœur vers celui qui est assis à la droite de Dieu sur son trône, le Sauveur blessé et meurtri, et lui dire « Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort pour moi sur la croix. Je crois que tu portais là mes péchés et que tu les as effacés. Je te remercie pour cela. Je t'adore et je te confie mon âme. » « Oui, répondit-il rapidement, je suis donc prêt à faire tout ce que vous m'avez dit, car je désire posséder vraiment cette paix, enfin, dans mon cœur. » Là, nous nous sommes agenouillés et il s'est mis à prier. Il a dit dans sa prière, « Ô Dieu, je te remercie d'avoir envoyé Jésus dans le monde pour sauver ce monde. Ô Dieu, est-ce que tu ne feras pas de moi un très bon chrétien? Ô Dieu, est-ce que tu ne me donneras pas la paix et le secours pour vivre une bonne vie? Ô Dieu, est-ce que, à cet instant, j'étendis la main et lui secouai fortement l'épaule en lui disant « Arrêtez, cela ne sert à rien de prier de cette façon-là. Vous êtes en train de perdre votre temps. » Il se retourna très effrayé, se leva et tremblant d'émotion, il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Je lui expliquai. Voyez-vous, vous n'avez fait aucune des cinq choses que je vous avais demandé d'accomplir. Vous n'avez pas remercié Dieu de vous avoir donné son Fils bien-aimé à vous personnellement. Vous n'avez pas dit à Dieu qu'ici, en cet instant, vous acceptiez ce don et vous ne l'avez pas non plus remercié pour le don de la vie éternelle. Vous n'avez rien dit de la joie de savoir que vous ne périrez jamais. Vous avez complètement ignoré le Seigneur Jésus et vous n'avez rien dit non plus de l'œuvre merveilleuse qu'il a accompli pour vous sur le calvaire. Vous devez accepter le Christ de Dieu si vous voulez être son enfant. Vous n'avez nul besoin de demander à Dieu de faire quelque chose pour vous. Tout a déjà été fait. Le don a déjà été offert. Le sacrifice a déjà été accompli. Le sang a déjà été versé. Dieu désire que vous croyiez tout cela et que vous acceptiez ce Sauveur maintenant. Maintenant, je répète, vous n'avez fait aucune des cinq choses que je vous avais demandé d'accomplir. Vous n'avez pas du tout remercié Dieu de vous avoir donné son Fils bien-aimé à vous, personnellement. Vous n'avez pas dit à Dieu qu'ici et en cet instant, vous acceptiez ce don merveilleux et vous ne l'avez pas non plus remercié pour le don de la vie éternelle. Vous n'avez rien dit de la joie de savoir que vous ne périrez jamais. vous avez complètement ignoré le Seigneur Jésus et vous n'avez rien dit non plus de l'œuvre merveilleuse qu'il a accomplie pour vous sur le calvaire. Vous devez accepter le Christ de Dieu si vous voulez être son enfant. Vous n'avez nul besoin de demander à Dieu de faire quelque chose pour vous, car tout a déjà été fait. Le don a déjà été offert. Le sacrifice a déjà été accompli. Le sang a déjà été versé. Dieu désire que vous croyiez tout cela simplement et que vous acceptiez ce sauveur maintenant. Voulez-vous le faire? Oui, oui, je vais prier de nouveau. Et nous, nous sommes agenouillés une fois de plus, et il pria en disant, cette fois-ci, « Ô Dieu, je me rends enfin compte que je me suis mal exprimé devant toi. Ô Dieu, reçois ton Fils maintenant. J'accepte le don que tu me fais à moi, et je crois qu'il est venu dans le monde pour me sauver, et je crois que tu me donnes la vie éternelle cet après-midi. Merci Seigneur, de ce que je ne périrai jamais. Ô combien je te remercie pour la merveilleuse paix, cette paix que tu m'as donnée maintenant. Je te remercie d'avoir enlevé tous mes péchés et de les avoir effacés par ton sang précieux. Tu m'as sauvé, je t'adore et je crois en toi. » Il répandit ainsi son cœur dans une telle reconnaissance et avec une telle louange que les amis qui s'étaient réunis pour la réunion ont été profondément impressionnés par la bénédiction que Dieu lui avait accordé. Chacun de ceux qui ont écouté ce message sont donc invités à faire de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur. Confiez-lui donc votre âme et mettez votre vie à ses pieds. Il vous sauvera, il vous gardera. Et il se servira de vous pour en bénir beaucoup d'autres. Chers amis, nous allons donc terminer par la prière. Et merci pour votre écoute. Je vous mettrai un ou deux chants après. Ces chants sont du passé, il y a au moins 50 ans. Quand j'avais fondé une mission sur cassette, elles sont donc évidemment usées, vieilles. Mais il est possible d'entendre encore les paroles. Prions donc avant, maintenant ensemble. Et je vous dirai juste une strophe d'un cantique très ancien et nous prierons. Brillante étoile du matin, accorde-nous un jour serein, un jour de paix, de grâce, comme une aurore dans nos cœurs, répand tes divines splendeurs et ta douce efficace. Agneau, flambeau de ma vie, je te prie, viens, éclaire tous mes pas de ta lumière. Prions. Ô Dieu notre Père, apprends-nous à répandre nos cœurs devant toi, à t'offrir sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent ton saint nom, à t'apporter chaque jour nos difficultés, nos faiblesses, et à chercher auprès de toi seul le secours et la force. Préserve-nous, Seigneur, de nous confier en nous-mêmes ou de nous appuyer sur le bras de la chair, mais que par une foi vivante, nous nous attachions à toi qui es le rocher de notre cœur et notre partage à toujours. Rends-nous fidèles à chercher le secours toujours présent que tu nous offres, à saisir la main que tu nous tends, afin qu'appuyés sur toi, nous puissions traverser toutes les circonstances de la vie dans la paix et dans la reconnaissance. Tu sais ce qui nous attend pendant cette journée. Nous savons une seule chose, c'est que celui qui a donné son Fils nous donnera aussi toutes choses avec lui. C'est que tu veux notre bien, le bien éternel de nos âmes, et que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Que dans cette pensée, ô Seigneur, nous nous avancions dans la paix, recevant toutes choses de toi et les rapportant toutes à toi. Reçois donc nos actions de grâce et notre adoration. Sanctifie le culte que nous te rendons et que ta grâce et ta paix demeurent avec nous pour l'amour de notre Sauveur. Amen.
Nous pouvons remercier Dieu pour l'inspiration qu'il donne à ses enfants. En mars 1912, nous raconte Austin Mill, je me trouvais assis dans la chambre noire où je mettais mes équipements photographiques et mon orgue. Je pris la Bible et l'ouvris à mon passage favori, l'Évangile de Jean au chapitre 20. Cette fameuse rencontre entre Jésus et Marie dans le jardin de Gethsémané. Et comme je lisais ce passage, il me semblait être témoin de la scène, un témoin silencieux de cette période de la vie de Marie, au moment où elle s'est agenouillée en criant « Rabboni ». Sous l'inspiration de cette vision, j'écrivis, dit-il, aussi rapidement que je le pouvais, les mots tels que je les avais entendus. Et le même soir, j'écrivis la musique. Cette expérience que Marie a faite est pour toute personne qui désire rencontrer Dieu. Nous aussi, nous pouvons marcher avec lui et lui parler. Cela nous amène en tout cas la joie et la paix. Lorsque nous prenons le temps de connaître Christ individuellement, au travers de la prière et de la méditation, nous pouvons ressentir le désir de rester en sa présence pour toujours. Voulez-vous expérimenter cette joie? Alors écoutez et entrez dans ce jardin.
Jardin où je m'entrais à la rose. par terre du genre.